RMC After Marseille.
Karine Galli.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Marseille sur RMC. On va parler de cette saison qui a été ô combien éprouvante pour les suiveurs de l'OM, pour les supporters de l'OM, pour les joueurs de l'OM. On en parle avec Rémi Dumont. Salut Rémi.
Salut Karine.
J'ai l'impression qu'il n'a pas eu un seul jour de congé, tellement cette saison a été dense, tellement ce fut les montagnes russes. Et évidemment, Florent Germain, notre suiveur de l'Olympique de Marseille, 365 jours par an, 28 heures sur 24.
Même plus.
N'est-ce pas ? Salut Flo.
Salut Flo.
Salut Karine, salut Rémi. Alors, ce n'est pas vrai, puisque j'ai eu le regret de ne pas pouvoir faire, je crois, au moins deux épisodes là, ces dernières semaines, parce qu'il fallait bien à un moment donné prendre quelques congés. Et donc, je suis de retour parmi vous et j'en suis ravi.
Magnifique.
Pour la dernière de la saison, parce que c'est l'heure du bilan, vous le savez, donc l'Olympique de Marseille a terminé cette saison. Une saison catastrophique, ce sont les mots notamment de Mehdi Benatia. Il s'est exprimé pour la dernière fois au soir de la victoire face au Stade Rennais. Une victoire synonyme donc de cinquième place. Qualification directe pour la Ligue Europa, deux points du podium. Mais évidemment, on le rappelle, Marseille avait un objectif, c'était la Ligue des Champions directe. Une deuxième saison où les Marseillais auraient joué la plus belle des compétitions. Mais ça n'a été absolument pas le cas parce que Marseille a vécu une saison très compliquée avec beaucoup de rebondissements. Messieurs, on vous a demandé quelles étaient vos dates clés, vos moments clés dans cette saison. Alors, c'est compliqué de faire un choix, tant il s'est passé, évidemment, des épisodes assez rocambolesques. On va commencer avec toi, effectivement, Flo, et notamment, dès l'avant-saison, c'est pour toi un moment clé dans ce trio. On le rappelle, à la base, il y avait Longoria, il y avait Benatia et il y avait De Zerbi.
Oui, alors pourquoi j'ai choisi de parler du rendez-vous de Miami ou quelque part de l'intersaison, c'est que et c'est quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années là depuis quelque temps que je suis l'OM. Et pour moi, malheureusement, c'est pas le réflexe d'un grand club. Ce serait même le réflexe d'un petit club ou d'un club moyen. C'est que quand il y a des qualifications en Ligue des Champions, moi j'ai le sentiment que parfois ça fait tourner la tête à certains et on prend parfois des décisions qu'on va payer tout au long de la saison. Je m'explique, il y a eu, après la qualification en Ligue des Champions, visiblement une volonté de taper du poing sur la table et de dire « on est ensemble, Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, on a fait une grosse saison, on a fini deuxième et maintenant on va mettre encore plus d'autorité dans toutes les relations qu'on peut avoir en interne, avec les médias. On va montrer que si on a fini en Ligue des Champions deuxième, c'est parce que nous, on a pris les bonnes décisions. » Et je pense honnêtement qu'à petit feu, c'est peut-être ce qui a un peu perdu, notamment Roberto De Zerbi. Parce qu'à la limite, Mehdi Benatia, Pablo Longoria, à des postes différents, ils peuvent éventuellement ne pas apprécier la pression médiatique ou populaire, etc. Mais le problème, ça concerne Roberto De Zerbi. Et moi, j'ai eu beaucoup de retours ces derniers temps, c'est pour ça que j'en parle, de membres du staff, de son staff, qui lui passaient et lui donnaient l'info ou un lien internet ou une copie d'écran de la moindre polémique, de la moindre critique. Et au bout d'un moment, je pense qu'on ne peut pas tenir à l'Olympique de Marseille, dans une ville passionnée, dans un club où il y a une forte pression, si on a un coach qui s'émeut à chaque fois qu'il y a une critique dans un média, chez nous à la radio ou ailleurs. Et donc, je pense que cette position qui a un peu été établie dans l'intersaison, de dire on va être costaud, on va s'unir pour au final que tout ça vole en éclats et qu'à la moindre critique, à la moindre polémique, on prenne ça à cœur. Je pense que ça a été un mauvais calcul et honnêtement, a posteriori, la tête reposée, je me dis qu'il aurait fallu, après la qualif en Ligue des Champions, avoir un petit peu plus de légèreté et ne pas être autant frontal par rapport à ceux qui émettent des critiques. Voilà, c'est un petit sentiment que j'avais et je pense qu'il est important à l'heure du bilan.
On rappelle que la saison 1 déjà du trio avait été marquée par quelques sorties médiatiques. Et là, donc, tu parles de ce fameux pacte entre guillemets de Miami. C'est les trois hommes qui avaient été rencontrer le propriétaire Frank McCourt en Floride. Et il s'était dit qu'il fallait un alignement total et qu'il fallait que lorsqu'il y a une décision qui était prise, il fallait qu'il y ait évidemment un consensus. Et évidemment, on va reparler de ce qui s'est passé lors de cette première journée. C'est notamment donc la première défaite de la saison lors de la première journée face à Rennes. Il y a une bagarre entre Raoult et Rabiot. Et déjà, ben là, voilà, il y a une décision radicale, définitive qui va être prise, Rémi, avec les deux joueurs qui seront mis sur la liste des transferts et la perte de Rabiot, bien sûr.
Ouais, parce que cette bagarre, elle intervient le vendredi et on va dire que la décision est prise le lundi de se séparer de Raoult et Rabiot. Et je parle encore une fois sous le contrôle de Flo. Mais pour revenir à ce que disait Flo, je trouve que c'est vrai que cette saison plus particulièrement, il y a une faculté, je trouve, à se mettre en difficulté tout seul, ou en tout cas à se mettre à la pression tout seul. Le pacte justement à Miami, où il n'y a pas besoin de sceller un pacte en fait, on est qualifié en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille, en Ligue des Champions, comme c'était l'objectif. Pour moi, il fallait continuer, mais pas besoin de sceller un pacte. Et même avec les retiros, je pense qu'enfin les retiris maintenant, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, et je pense que voilà, c'était une faculté toujours à mettre à la pression. Moi, je pense, alors après c'est facile de dire ça de là où je suis, de refaire le film, mais que les joueurs avaient peut-être besoin de s'aérer l'esprit à un moment, et justement là où ils en avaient le plus besoin, bah, c'est là où il y a eu les retiris, et donc c'était plus compliqué psychologiquement. Et après, pour en revenir justement à la J1 et à la bagarre suite à la défaite en plus pour la première journée face à Rennes, évidemment c'est la première polémique, grosse polémique en plus. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mots forts utilisés, même si une bagarre c'est vrai que c'est pas hyper courant, mais je pense que là aussi le temps aurait pu peut-être un peu tasser les choses, parce que c'est Habib Bey lors de sa prise de fonction qui a dit que des fois le quand il y a un feu à Marseille, il faut le laisser brûler, et il s'éteint tout seul.
Effectivement, on va continuer à parler. Oui, tu voulais rebondir là-dessus, Flo, j'ai cru.
Non, j'étais totalement d'accord avec ce que disait Rémi, et je pense qu'effectivement ce qui s'est passé dans le vestiaire à la J1, ça a peut-être été la conséquence de la philosophie qui a voulu être mise en place donc dans l'intersaison. Donc ouais, on était raccord par rapport à ça.
Dans ces dates clés, il y a également donc le retour en Ligue des Champions. Marseille qui découvrait cette nouvelle formule, vous le savez, avec des adversaires différents à chaque fois. Et donc, Flo, toi, tu t'es arrêté sur notamment la J3 et cette défaite au Sporting. Nous sommes le 22 octobre 2025.
Exactement. Alors j'ai un souvenir assez précis de cette journée-là même, puisque moi je peaufinais un article qu'on a diffusé sur rmcsport.fr concernant Aubameyang, un peu grand frère du vestiaire et qui était à un niveau physique un peu inattendu. Et je sortais quelques jours auparavant d'un article et de sujet sur RMC en disant que Roberto De Zerbi vivait, selon lui, hein, la meilleure période depuis son arrivée à l'OM. Et j'ai l'impression que ce match-là, de manière un peu irrationnelle, avec ce pénalty au final refusé et qui se transforme en deuxième carton jaune et donc en carton rouge pour Emerson, j'ai l'impression que ça a été, je ne sais pas, comme de manière un peu inattendue, le tournant de la saison qui a été la bascule qu'on n'imaginait pas côté marseillais, parce que je me souviens d'une première période. Alors, en Ligue des Champions, il y a toujours eu 5-10 minutes où Marseille prenait le bouillon à Madrid ou contre d'autres équipes. Mais au-delà des 10 premières minutes à Lisbonne, moi, j'ai le souvenir d'un gros match de l'OM. Mmh. C'est-à-dire que jusqu'à ce fait de jeu, le Sporting, qui devient quand même une équipe, au final, qui va assez loin en Ligue des Champions et qui, a posteriori, je me dis, De Zerbi, il avait peut-être raison quand il dit « vous sous-estimez cette équipe », etc. Donc, je pense que ça lui a donné raison. Mais Marseille fait un gros match là-bas, impose son jeu, impose son style. Enfin, c'était le sentiment qu'il y avait un OM solide, trouvé totalement, qui allait faire presque sa loi sur un terrain d'Europe pas évident. Et là, tout d'un coup, patatras. Et donc, j'ai le sentiment inexplicable que après, en plus, il y a eu des critiques, rappelez-vous, il a été beaucoup ciblé, Roberto De Zerbi, pour avoir peut-être manqué d'ambition à 10 contre 11. Et je crois que ça a été la bascule aussi pour lui, où il s'est dit, mais attention, qu'est-ce qu'ils me veulent, ces médias français, là? Ils sont en train de me reprocher d'avoir subi à 10 contre 11 sur une pelouse comme celle du Sporting. Et donc, à plusieurs niveaux, ça a été la bascule. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est passé d'un OM qui avait un jeu huilé et tout allait bien, au début de la fin.
Et on reviendra sur ce parcours en Ligue des Champions qui se terminera avec le fiasco à Bruges. Rémi, l'an dernier, sur la saison 1 de Roberto De Zerbi, Auxerre avait évidemment été l'un des drames de la saison. Là, cette année, ça a été Nantes. Une fois pour De Zerbi, une fois pour Habib Bey. Toi, tu voulais revenir sur cette défaite au Vélodrome. On est le 4 janvier. Les Marseillais sont battus par des Nantais qui ont été à l'agonie toute la saison, ouais, et qui ont même fini en Ligue 2. On le rappelle, ils ont été relégués.
Ouais, parce que c'est le premier match, hein, de l'Olympique de Marseille en 2020. 36. Sur le papier, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour les Marseillais parce que à ce moment-là, ils sont très bien placés. Hein, ils sont toujours troisième de Ligue 1. Et puis, va y avoir ces buts avec le premier but refusé, hein, notamment pour Nantes et ce but de Cavella à la 88e minute où je trouve que voilà, ça repart pas du bon pied et ça annonce rien de bon parce que l'OM est dans une bonne période. Hein, ils ont gagné à Monaco, ils ont gagné à l'Union Saint-Gilloise fin 2025, ils ont même gagné contre Bayeux fin décembre, notamment le 6-0 Bourg-en-Bresse, pardon, le 6-0. Donc en fait, sur le papier, un peu à l'image du match du Sporting, il y a tout qui va et tout va commencer à dérailler. Et j'ai l'impression que suite à ce match-là, bah, y a une petite graine pour la confiance qui a commencé à pousser, mais dans le mauvais sens, donc, où les Marseillais ont commencé à perdre confiance. Et notamment 4 jours après, où il y a le trophée des champions, on se dit que Marseille peut récidiver en gagnant face à Paris avec justement le but du 2-1 proche de la fin du match. Et finalement, c'est Pacho qui va égaliser. Et puis ensuite, il y aura le but de Gonzalo Ramos. Et là, encore une fois, commence cette série aussi des matchs, des buts encaissés dans les dernières minutes d'un match avec justement les larmes de Roberto De Zerbi, les premières déclarations de Mehdi Benassia, hein, qui dit qu'il sera peut-être pas là pour très longtemps. Et puis ensuite, ça va amener aussi le match de Bruges fin.
Alors, on va peut-être rester sur le trophée des champions. Ouais. On reviendra sur la Ligue des champions parce que c'est vrai qu'effectivement, Flo, tu l'as mis également dans l'une des date clé de cette saison de l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'on est en janvier 2026. Le 8 janvier, Marseille est tout proche d'un premier trophée depuis 2012, depuis l'ère des champs. 94e minute, Marseille a le trophée. 95e minute, Ramos égalise pour les Parisiens. Et puis après, lors de la séance de tir au but, eh bien c'est Paris qui gagnera face aux Marseillais à ce petit jeu-là. Et effectivement, ça a été extrêmement dur cette soirée-là parce que les Marseillais sont passés du bonheur de battre les Parisiens deux fois dans la saison parce qu'ils les avaient battus en championnat à une nouvelle énorme désillusion.
Oui, je pense que ça aurait changé quand même beaucoup la saison. Après, ça reste un trophée mineur. Je pense que la symbolique, et c'est bien ce que tu viens de dire, Karine, ça aurait été notamment de battre deux fois le PSG, parce que un moment fort qu'on n'a pas cité, parce qu'on est quand même dans un bilan plutôt négatif, c'est évidemment ce 1-0 pour l'OM au Vélodrome en championnat. Donc si Marseille avait battu deux fois le PSG sur cette saison-là, en septembre, puis en janvier, ça aurait quand même signifié beaucoup. Je pense que c'est pas un hasard si De Zerbi, et il a plus tard même reconnu que c'était vrai, hein, que c'était pas une formule, il a pleuré dans son vestiaire, pas dans le vestiaire des joueurs, mais dans son vestiaire au Koweït, parce qu'il était sous le coup de l'émotion. Il a jamais, pourtant j'ai regardé l'action, bon c'est vrai que Murillo se fait prendre de vitesse par Barcola, mais enfin de là à prendre en grippe Murillo et à estimer que c'est lui le fossoyeur ou c'est lui le fautif et que du coup il faudra absolument le vendre à la prochaine fenêtre possible. Donc ça a précipité aussi le départ de Murillo. Enfin, en tout cas, ce match-là et ce scénario, ça a eu des conséquences fortes. Et je pense qu'un trophée aurait peut-être adouci la saison, amené peut-être un peu plus de légèreté. Et à mon avis, l'OM ne s'en est pas vraiment remis sur cette séquence bien expliquée par Rémi, avec ensuite le point d'orgue qui est le Bruges-OM. Très clairement, le pire moment de la saison pour tout le monde, même les suiveurs de l'OM. On a vécu un match horrible dans des conditions pour commenter. C'était vraiment le. Tous les suiveurs de l'OM vous diront que c'est l'une des pires soirées européennes de l'histoire récente, avec un contexte et un scénario où chacun dans son coin attend et apprend le but de Trouin de la tête. Enfin, il n'y a rien qui allait dans cette soirée-là, au cœur d'une saison, vous l'avez dit, bien chaotique.
On va revenir sur les dates clés de l'Olympique de Marseille. Vous le savez que c'est l'heure du bilan. Marseille donc qui termine cette saison de Ligue 1 à la 5e place, une nouvelle saison sans trophée. On en parle avec Rémi Dumont et avec Florent Germain. Vous suivez l'After Marseille avec Rémi Dumont et Florent Germain, c'est l'heure du bilan. Marseille qui donc termine cette saison à la 5e place. L'objectif c'était la Ligue des Champions direct. Marseille devra se contenter de la Ligue Europa avec cette 5e place obtenue lors de l'ultime journée en battant les Rennais. On revient sur les dates clés, sur cette saison qui a été marquée par des hauts, par des bas, par évidemment des départs, notamment celui de Roberto De Zerbi, celui de Longoria et celui de Benassa, c'est-à-dire le trio qui était censé porter Marseille pendant plusieurs plusieurs saisons. On l'a dit, il y a eu une inconstance tout au long de cette saison et il y a notamment un haut que tu voulais mettre en exergue, Flo. On est le 24 janvier 2026, Marseille balance, tout le monde devrait être content, 3-1, et pourtant, eh bien, RDZ, Roberto De Zerbi, règle ses comptes plutôt que de savourer la victoire.
Oui, rappelez-vous, je disais tout à l'heure qu'il a pris de plein fouet la pression médiatique et je pense qu'il n'a pas été aidé par certains adjoints notamment qui se faisaient un malin plaisir de lui rapporter certaines déclats, certaines punchlines ou certaines critiques ou polémiques. Et c'est vrai qu'il y a un très beau match de l'OM. Franchement, Marseille domine Lens, Marseille mérite de gagner. Marseille se relance mais reste globalement bien situé parce que faut quand même pas oublier que avec De Zerbi Marseille avait souvent la meilleure attaque du championnat ou pas loin derrière le PSG et au final était sur le podium. Alors ça pouvait être deuxième, ça pouvait être troisième, mais globalement était sur le podium et là il décide comme il l'a trop souvent fait je pense de dégoupiller, de parler de cette histoire de passeport italien ou passeport français, qu'en gros, si il avait le passeport français, les médias seraient beaucoup moins sévères avec lui. Je pense que l'OM n'avait pas besoin de ça, surtout à cette période-là, surtout dans une période où il y avait encore la Ligue des Champions. Alors, il avait été marqué aussi par le non-match de l'OM face à Liverpool, qui devait être un soir de fête lors duquel Marseille n'avait pas grand-chose à perdre, parce que quoi qu'il arrive, Marseille était toujours en course en C1, même s'il y avait des fêtes. Et voilà, il était toujours marqué, De Zerbi, par ces critiques-là, au point d'un des beaux soirs de la saison en Ligue 1, bah, d'y revenir et de parler de ce passeport français qui lui manque pour peut-être être légitime en Ligue 1, ce qui, je pense, est totalement faux. Parce que vous savez très bien qu'il y a des coachs français qui, au contraire, disent l'inverse, à savoir que on respecte beaucoup plus en France les coachs étrangers. Donc, c'était à n'y rien comprendre et je sais que ça a beaucoup agacé.
De toute façon, on a senti de toute façon lors de ce trio, que ce soit Longoria, on se souvient avec le Corruption, Benatia ou encore De Zerbi, qui avait ce côté seul contre tous qui finalement leur portera préjudice avec le départ aussi de Roberto De Zerbi. On rappelle que ça sera dans la nuit, lui, du 11 février, qui décidera avec l'Olympique de Marseille de se quitter. On continue sur les dates clés. La date clé qui arrive, c'est celle du 28 janvier 2026. On l'a dit très souvent, il y avait des très bons matchs comme face à Lens et puis le néant. Et Rémi, c'est ce que Marseille va vivre donc face à Bruges. Deuxième défaite consécutive en Ligue des Champions sur ce score fleuve de 3-0. Et cette cinquième défaite en Ligue des Champions fait que Marseille sort du top 24. C'est une soirée cauchemardesque, unique, exceptionnelle aussi par ce scénario complètement fou.
Ouais, parce que c'est ce jour-là qu'on a appris qu'une équipe pouvait essayer de jouer la défaite 3-0 et de la garder. C'est ce qui m'a notamment étonné parce que Marseille, par un concours de circonstances, n'avait pas besoin de gagner ni de faire match nul. D'ailleurs, à la fin de ce match face à Bruges et cette défaite 3-0, Marseille est toujours qualifié, seulement le problème c'est qu'il y a Benfica qui traîne derrière et qui joue face au Real Madrid et qui dans le temps additionnel va marquer et à la différence de but va passer devant Marseille. Pour moi à ce moment-là c'est un peu un clin d'œil du destin, mais un mauvais clin d'œil parce que pour moi Marseille avait toutes les cartes en main, c'est-à-dire que voilà, ils avaient leur destin entre les mains, ils le prennent pas on commençait déjà à relever le problème des buts encaissés en fin de rencontre. Et ben là ils encaissent un but, mais c'est même pas dans leur propre match, c'est dans le match du Benfica face au Real Madrid, ce qui montre bien que le destin était taquin avec l'OM et que l'OM s'est fait punir et donc est éliminé de la Ligue des Champions, ne passera même pas par l'Europa League ou les barrages ou quoi que ce soit. C'est ça qui est assez impressionnant et on se dit alors que évidemment il y a un gros problème à l'Olympique de Marseille, même si à ce moment-là en Ligue 1 tout est encore possible. L'OM est en course à la fois pour la Ligue des Champions et pour la Coupe de France, mais la suite on la connaît et Marseille perdra tout, donc une qualification directe en Ligue des Champions, la Coupe de France puisqu'ils seront éliminés par Toulouse, mais bon, finiront quand même 5e et donc européen la saison prochaine.
Un fiasco en Ligue des Champions.
Oui. Oui, non, justement, je voulais rebondir là-dessus parce que souvent on nous demande est-ce que c'est la pire saison que tu suis depuis que tu t'occupes de l'OM. Et en fait, ce que dit Rémi là, ce scénario-là, moi je vais expliquer pourquoi c'est sûrement l'une des pires saisons.
Ah oui,
aussi
tu la mets dans les pires.
Supporter.
Ah d'accord.
Ah okay. Oui, oui, mais très clairement. Bah, je vais expliquer pourquoi. C'est que en fait, déjà, tu t'attendais à beaucoup mieux. Tu te dis, bon, l'OM. en septembre-octobre. Personne, enfin, je pense que les gens qui ont les pieds sur terre ne parlaient pas de titre, mais tu t'attendais pas à ce que l'OM ne soit pas sur le podium. Donc tu t'attendais à mieux. Enfin, tu t'attendais pas à ce que Marseille finisse cinquième. Trop de péripéties dans cette saison. On l'a dit, ça part dans tous les sens, de Rabiot jusqu'à l'extincteur. Enfin, il se passe des dingueries. Et après, c'est ce que je voulais expliquer par rapport à Bruges-OM, c'est qu'on a touché cette saison à quelque chose qui est important à Marseille, c'est cette fierté d'être Marseillais. Et il y a eu cette saison des épisodes qui ont donné honte aux supporters de l'OM. D'accord ? Le 5-0 au Parc et ce scénario de dingue à Bruges, où comme le dit Rémi, tu joues à la baballe derrière pour maintenir le 3-0. Et alors que ton match il est arrêté et que Bruges félicite l'OM sur l'écran géant pour la qualification pour les barrages, bah, y a Troubine, il met une tête et terminado. Donc si vous voulez, il y a des épisodes où en fait, pendant que Paris, le rival historique, est sur un nuage et déroule, et je pense que c'est la petite goutte d'eau en plus qui fait déborder le vase, vous avez des épisodes qui mettent la honte. Et donc, les supporters marseillais, je pense qu'ils ont, pour beaucoup, moi j'entends plein de supporters dire, c'est la pire saison depuis X années. Pourtant, il y a eu l'année des incidents de la commanderie, il y a 2020-2021, il y a eu des années où Marseille a fini plus bas au classement. Mais celle-ci, pour différentes choses que je viens d'expliquer, elle fait très mal.
Et avec des déclarations aussi, un choc de la part des trois hommes qui représentaient l'OM pendant longtemps. On continue effectivement dans cette saison complètement dingue. Il y avait d'ailleurs eu une prise de parole après Bruges de la part de Mehdi Benassia. Là, nous sommes le 14 février. Marseille qui est incapable de garder un résultat. C'est un scénario qui se répétera à plusieurs reprises, Flo. Et donc ce fameux OM Strasbourg 2-2. Et tu en parlais il y a quelques instants, ce match arrive juste après la claque face au PSG. C'est la plus lourde défaite dans l'histoire d'un classique entre Parisiens et Marseillais, ce 0-5. Et ce premier match aussi après le départ de Roberto De Zerbi. On le rappelle que le 11 février à 2h30 du matin, il y a un communiqué de presse qui tombe en disant voilà, fin de collaboration. Donc ça aussi, tout est complètement lunaire dans cette saison.
Oui, alors je voulais choisir ce match aussi pour deux autres raisons. C'est que ça illustre tous ces points perdus dans le temps additionnel. Donc on peut penser à Toulouse, au but de Hidalgo. Oui. On peut penser au Paris FC qui est totalement improbable, où Marseille mène 2-0 et en 10-15 minutes, alors qu'il n'y a aucun danger, se fait remonter à 2-2. Il y a eu un match nul contre Angers, il y a eu des buts dans le temps additionnel, en veux-tu, en voilà. Et il y a ce match contre Strasbourg, avec en plus derrière, si je ne m'abuse, la vraie fausse démission de Mehdi Benatia, qui, pris par l'émotion aussi peut-être du départ de Zerbi, hein. D'ailleurs il l'a confirmé en zone d'interview après le dernier match contre Rennes, que lui s'était inscrit dans un projet avec De Zerbi et qu'à partir du moment où De Zerbi part, il était évident de suivre. Il aura attendu quand même le match nul contre Strasbourg et peut-être cette situation encore plus chaotique d'un nouveau faux pas faire son post Instagram et donc les conséquences qui sont peut-être le début de la deuxième partie de saison où après on connaît l'histoire, hein, McCourt le retient, Longoria est éjecté et puis après il va arriver. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce match-là.
C'est vrai qu'en plus ce jour-là il n'y a rien qui va parce qu'on rappelle hein, Habib Bey n'est pas encore nommé à ce moment-là face à Strasbourg. C'est
Habib, ça sera le 18 février.
Voilà, c'est Pancho Abardonado qui dirige l'équipe et c'est un samedi soir le match face à Strasbourg et donc le lendemain, le dimanche vers 15h, Mehdi Benatia poste sur les réseaux son message de démission alors qu'il n'y a aucune communication officielle de l'Olympique de Marseille. Donc là il y a vraiment un quiproquo, une incompréhension énorme pour les supporters parce qu'on ne sait pas si Mehdi Benatia va vraiment partir de l'OM, si Marseille va vraiment communiquer. Il y a une sorte de quiproquo général qui n'aide pas évidemment sur le plan sportif. Et encore une fois, par rapport au match face au PFC, le clin d'œil, c'est que le PFC va marquer grâce à Jonathan Ikoné, ancien parisien, et va marquer dans les derniers instants de la partie sur pénalty grâce à Elian Kebal qui adore Marseille. Encore une fois, quand on parle de destin, de mauvais clin d'œil, je trouve que là, ça en fait vraiment partie.
Tu l'as dit, hein, 15 février, donc Benatia qui démissionne via ses réseaux, pas via le club, alors que toute la saison, ils nous ont parlé d'institutions matin, midi et soir. Le 17 février, finalement, il va accepter de rester parce que Franck McCourt lui demande. Il devra piloter l'ensemble des activités sportives et sera en charge du choix du futur entraîneur. Longoria, lui, est évidemment mis sur la touche. Il quittera officiellement le club, ça sera le 23 mars. Bay est arrivé entre-temps le 18 février. Il y a également la nomination de Stéphane Richard comme futur président de l'OM, ça c'est le 10 avril. Et il y a aussi un match important, messieurs, qui est aussi une bascule, en tout cas selon Abby Bay, c'est ce Lorient-Marseille 2-0. Défaite des Marseillais, alors qu'ils arrivaient d'un stage à Marbella. Et Benatia pointe la responsabilité des joueurs en zone mixte. Il dit que c'est un scandale, qu'il y a une équipe qui est pratiquement en vacances, qu'il y a des joueurs qui sont rentrés dans le vestiaire et qui ont retourné la table. Il interroge combien de joueurs ont fait ça. Eh bien, la réponse, c'est zéro. Rémi, c'est vrai que là, on va voir aussi qu'il y a une divergence de façon de gérer la crise du côté du responsable du football et de l'entraîneur.
Ouais, bah, autant sur le terrain, la faute, c'est celle des joueurs. Autant après le match, je pense que les propos de Mehdi Benatia ont eu l'effet inverse de ce qu'ils étaient voulus, c'est-à-dire de remobiliser l'équipe, de les secouer un petit peu pour qu'ils terminent la saison en boulet de canon. Moi, j'ai plus l'impression que avec les déclarations de Mehdi, ça a fait l'effet inverse, que du coup, c'était très compliqué mentalement pour les joueurs et vu leur situation contractuelle, hein, entre ceux qui étaient prêtés sans option, ceux qui savaient qu'ils allaient repartir la saison prochaine et donc quitter l'Olympique de Marseille, ça a été très compliqué. Après, on connaît la suite, hein. Il y a eu cette victoire justement, alors il y a eu la défaite à Lorient, la défaite à Nantes, mais la victoire face à Rennes, ce qui permet de sauver les meubles. Mais c'est vrai que autant sur le terrain Candor, cette saison de Marseille aura été très 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 compliquée.
Tu l'as dit, dernière prise de parole aussi de Mehdi Benatia, ça sera après la victoire face à Rennes. L'OM qui finit donc cinquième, qui se qualifie pour la Ligue Europa et qui passe justement devant les Rennais. On se rappelle évidemment du contexte avec Abby Bay qui se retrouvait face à son ancien club. Et donc Marseille qui est en reconstruction. Mehdi Benatia est parti, Longoria est parti, De Zerbi est parti. Aujourd'hui, l'homme fort de Marseille, c'est Stéphane Richard, futur président qui prendra ses fonctions au mois de juillet. Il devrait y avoir l'annonce de Grégory Lorenzi comme directeur sportif et on attend évidemment l'entraîneur de l'Olympique de Marseille parce que la tendance c'est que Abby Bay ne continue pas à Marseille. Merci beaucoup Rémi d'avoir été évidemment à nos côtés pour vivre cette
Merci
saison
toi,
totalement rocambolesque. Est-ce qu'on a retrouvé Flo Germain pour les... Eh bien, on n'a pas retrouvé Flo Germain. Décidément, cette saison de l'OM, elle aura été très complexe, faite de nombreuses surprises. Merci Flo.
On l'embrasse, on le remercie Flo.
Merci Flo d'avoir été à nos côtés tout au long de cette saison à rebondissement. L'After Marseille, c'est évidemment sur RMC que vous le retrouvez. Bel été à tous.
RMC, After Marseille.